Combien insolemment les stoïciens Rabelais et Épicure, sur ce qu'il tient l'être véritablement bon et heureux, n'appartenir qu'à Dieu et l'homme sage d'en avoir qu'un ombrage et similitude. Combien témérairement ont-ils attaché Dieu à la destinée, à la mienne volonté qu'aucun du surnom de chrétien ne le fasse pas encore, et Thalès, Platon et Pythagoras l'ont asservi à la nécessité. Cette fierté de vouloir découvrir Dieu par nos yeux a fait qu'un grand personnage des nôtres a attribué à la divinité une forme corporelle, et est cause de ce qui nous advient tous les jours d'attribuer à Dieu les événements d'importance d'une particulière assignation. Parce qu'il nous pèse, il semble qu'il lui pèse aussi et qu'il y regarde plus entier et plus attentif qu'aux événements qui nous sont légers ou d'une suite ordinaire. Magna dii curant, parua negligunt. Les dieux se soucient des choses importantes et ils négligent les petites. Écoutez son exemple, il vous éclaircira de sa raison. Nec in regnis quidem reges omnia minima curant. Dans les royaumes, toutes les choses sans intérêt n'intéressent pas les rois. Comme si à ce roi-là, c'était plus et moins de remuer un empire ou la feuille d'un arbre. Et si sa providence s'exerçait autrement, un événement d'une bataille que le saut d'une puce. La main de son gouvernement se prête à toute chose de pareille teneur, même force et même ordre. Notre intérêt n'y apporte rien, nos mouvements et nos mesures ne le touchent pas. Notre arrogance nous remet toujours en avant cette blasphémeuse appariation. Parce que nos occupations nous chargent, Straton a étreigné les dieux de toute immunité d'office comme sont leurs prêtres. Il fait produire et maintenir toutes choses à nature, et de ses poids et mouvements construit les parties du monde, déchargeant l'humaine nature de la crainte des jugements divins. Nature veut qu'en choses pareilles il y ait relation pareille. Le nombre donc infini des mortels conclut un pareil nombre d'immortels. Les choses infinies qui tuent et ruinent en présuppose autant qui conserve et profite. Comme les âmes des dieux, sans langue, sans yeux, sans oreilles, sentent entre elles chacune ce que l'autre sent et juge nos pensées. Ainsi, les âmes des hommes, quand elles sont libres et déprises du corps par le sommeil ou par quelque ravissement, devinent, prognostiquent et voient choses qu'elles ne sauraient voir mêlées au corps. Les hommes, dit saint Paul, sont devenus folles, cuidant être sages, et ont mué la gloire de Dieu incorruptible en l'image de l'homme corruptible. Voyez un peu ce batelage des déifications anciennes. Après la grande et superbe pompe de l'enterrement, comme le feu venait à prendre du haut de la pyramide et saisir le lit du trépassé, il laissait en même temps échapper un aigle, lequel, s'envolant à mont, signifiait que l'âme s'en allait en paradis. Nous avons 1000 médailles, et notamment de cette honnête femme de Faustine, où cet aigle est représenté, emportant à la chèvre morte vers le ciel ses âmes déifiées. C'est pitié que nous nous pipons de notre propre singerie et invention, comme les enfants qui s'effraient de ce même visage qu'ils ont barbouillé et noirci à leurs compagnons. C'est bien loin d'honorer celui qui nous a fait que d'honorer celui que nous avons fait. Auguste eut plus de temples que Jupiter, servi avec autant de religions et créances de miracles. Les Thasiens, en récompense des bienfaits qu'ils avaient reçus d'Agésilas, lui vinrent dire qu'ils l'avaient canonisé. « Votre nation, leur dit-il, a-t-elle ce pouvoir de faire Dieu qui bon lui semble ? Faites-en pour voir l'un d'entre vous, et puis Quand j'aurai vu comme il s'en sera trouvé, vous direz grand merci de votre offre. L'homme est bien insensé. Il ne saurait forger un ciron et forge des dieux à douzaine. Oyez, Trismégiste, louant notre suffisance. De toutes les choses admirables à surmonter l'admiration que l'homme ait pu trouver, la divine nature est l'affaire. Voici des arguments de l'école même de la philosophie. Si Dieu est, il est animal. S'il est animal, il a sens, et s'il a sens, il est sujet à corruption. S'il est sans corps, il est sans âme, et par conséquent sans action, et s'il a corps, il est périssable. Voilà pas triomphé ? Nous sommes incapables d'avoir fait le monde. Il y a donc quelque nature plus excellente qui y a mis la main. Ce serait une sotte arrogance de nous estimer la plus parfaite chose de cet univers. Il y a donc quelque chose de meilleur. Cela, c'est Dieu. Quand vous voyez une riche et pompeuse demeure, encore que vous ne sachiez qui en est le maître, si ne direz-vous pas qu'elle soit faite pour des rats ? Et cette divine structure que nous voyons du palais céleste, n'avons-nous pas à croire que ce soit le logis de quelques maîtres plus grands que nous nous sommes ? Le plus haut est-il pas toujours le plus digne ? Et nous sommes placés au plus bas. Rien sans âme et sans raison ne peut produire un animant capable de raison. Le monde nous produit. Il a donc âme et raison. Chaque part de nous est moins que nous. Nous sommes part du monde. Le monde est donc fourni de sagesse et de raison, et plus abondamment que nous ne sommes. C'est belle chose que d'avoir un grand gouvernement. Le gouvernement du monde appartient donc à quelque heureuse nature. Les astres ne nous font pas de nuisance. Ils sont donc pleins de bonté. Nous avons besoin de nourriture aussi, ont donc les dieux, et se paissent des vapeurs de sabbat. Les biens mondains ne sont pas biens à Dieu, ce ne sont donc pas biens à nous. L'offensé et l'être offensé sont également témoignages d'imbécilité. C'est donc folie de craindre Dieu. Dieu est bon par sa nature, l'homme par son industrie, qui est plus. La sagesse divine et l'humaine sagesse n'ont autre distinction sinon que celle-là est éternelle. Or, la durée n'est aucune accession à la sagesse. Par quoi nous voilà compagnons. Nous avons vie, raison et liberté, estimons la bonté, la charité et la justice. Ces qualités sont donc en lui. Sommes le bâtiment et le débâtiment, les conditions de la divinité se forgent par l'homme selon la relation à soi. Quel patron et quel modèle ! Étirons, élevons et grossissons les qualités humaines tant qu'il nous plaira. Enfle-toi, pauvre homme, et encore, et encore, et encore. Est-ce chose naturelle, les effets ne rapportent qu'à demi leur cause. Quoi, celle-ci, elle est au-dessus de l'ordre de nature, sa condition est trop hautaine, trop éloignée et trop maîtresse pour souffrir que nos conclusions la tâchent et la garottent. Ce n'est pas par nous qu'on y arrive. Cette route est trop basse. Nous ne sommes non plus près du ciel sur le mont Cenis qu'au fond de la mer. Consultez-en pour voir avec votre astrolabe. Il ramène Dieu jusque à la cointance charnelle des femmes. À combien de fois, à combien de générations ? Paulina, femme de Saturninus, matrone de grande réputation à Rome, pensant coucher avec le dieu Sérapis, se trouve entre les bras d'un sien amoureux par le macrellage des prêtres de ce temple. Varron, le plus subtil et le plus savant auteur latin, en ses livres de la théologie, écrit que le sécrestin de Hercule, jetant au sort d'une main pour soi de l'autre pour Hercule, joua contre lui un souper et une garce, s'il gagnait, aux dépens des offrandes, s'il perdait, aux siens. Il perdit, paya son souper et sa garce. Son nom fut Laurentine, qui vit de nuit ce dieu entre ses bras, lui disant au surplus que le lendemain, le premier qu'elle rencontrerait la paierait célestement de son salaire. Ce fut Taroncius, jeune homme riche, qui l'amena chez lui et avec le temps la laissa héritière. Elle, à son tour, espérant faire chose agréable à ce dieu, laissa hériter le peuple romain. Pourquoi ? On lui attribua des honneurs divins. Comme s'il ne suffisait pas que par double estoc, Platon fût originellement descendu des dieux et avoir pour auteur commun de sa race Neptune. Il était tenu pour certain à Athènes qu'Ariston, ayant voulu jouir de la belle Paryctione, n'avait su, et fut averti en songe par le dieu Apollon de la laisser impollue et intacte jusqu'à ce qu'elle fût accouchée. C'était le père et mère de Platon. Combien y a-t-il à cette histoire de pareils cocuages procurés par les dieux contre les pauvres humains et des maris injurieusement décriés en faveur des enfants? En la religion de Mahomet, il se trouve, par la croyance de ce peuple, assez de Merlin, à savoir enfant sans père, spirituel, né divinement au ventre des pucelles, et porte un nom qui le signifie en leur langue. Il nous faut noter qu'à chaque chose, il n'est rien plus cher et plus estimable que son être. Le lion, l'aigle, le dauphin ne prisent rien au-dessus de leur espèce, et que chacune rapporte les qualités de toutes autres choses à ses propres qualités, lesquelles nous pouvons bien en étendre et raccourcir, mais c'est tout, car hors de ce rapport et de ce principe, notre imagination ne peut aller, ne peut rien deviner autre, et il est impossible qu'elle sorte de là et qu'elle passe au-delà. D'où naissent ces anciennes conclusions ? De toutes les formes, la plus belle est celle de l'homme. Dieu donc est de cette forme. Nul ne peut être heureux sans vertu, ni la vertu être sans raison, et nulle raison logée ailleurs qu'en l'humaine figure. Dieu est donc revêtu de l'humaine figure. Pourtant, disait plaisamment Xénophane, que si les animaux se forgent des dieux, comme il est vraisemblable qu'ils fassent, ils les forgent certainement de même eux, et se glorifient comme nous. Car pourquoi ne dira un oison ainsi « Toutes les pièces de l'univers me regardent, la terre me sert à marcher, le soleil à m'éclairer, les étoiles à m'inspirer leurs influences, j'ai telle communauté des vents, telle des eaux, il n'est rien que cette voûte regarde si favorablement que moi. Je suis le mignon de nature. Est-ce pas l'homme qui me traite, qui me loge, qui me sert? C'est pour moi qu'il fait semer et moudre. S'il me mange, aussi fait-il bien l'homme son compagnon. Et si fais-je, moi, les vers qui le tuent et qui le mangent? Autant dirait une grue, et plus magnifiquement encore pour la liberté de son vol et la possession de cette belle et haute région. Or donc, par ce même train pour nous, sont les destinées et pour nous le monde. Il tonne pour nous, et le Créateur et les créatures, tout est pour nous. C'est le but et le point où vise l'université des choses. Regardez le registre que la philosophie a tenu 2000 ans et plus des affaires célestes. Les dieux n'ont agi, n'ont parlé que pour l'homme. Elle ne leur attribue autre consultation et autre vacation. Les voilà contre nous en guerre. Les voici partisans de nos troubles pour nous rendre l'appareil de ce que tant de fois nous sommes partisans des leurs. Est-ce qu'Odiens, pour la jalousie et la domination de leurs dieux propres, prennent arbre en dos le jour de leur dévotion et vont courant toute leur banlieue, frappant l'air par-ci par-là, à tous leurs glaives, pourchassant ainsi à outrance et bannissant les dieux étrangers de leur territoire. Leurs puissances sont retranchées selon notre nécessité. Qui guérit les chevaux, qui les hommes, qui la peste, qui la teigne, qui la toux, qui une sorte de gale, qui une autre. Qui fait naître les raisins, qui les eaux, qui a la charge de la paillardise, qui de la marchandise, à chaque race d'artisans, un dieu, qui a sa province en Orient et son crédit, qui en Ponant, qui n'a qu'un bourg ou une famille en sa possession, qui loge seul, qui en compagnon ou volontaire ou nécessaire. Il en est de si chétifs et populaires, car le nombre s'en monte jusqu'à 36 000, qu'il en faut entasser bien 5 ou 6 à produire un épi de blé et en prennent leurs noms divers. Droit à une porte, celui de lait, celui du gond, celui du seuil, 4 à un enfant, protecteur de son maillot, de son boire, de son manger, de son tété. Aucun certain, aucun incertain et douteux, aucun qui n'entre pas encore en paradis. Il en est de physiciens, de poétiques, de civils. Aucun moyen entre la divine et humaine nature, médiateur, entremetteur de nous à Dieu, adoré par certains second ordres d'adoration et diminutifs, infini en titres et offices, les uns bons, les autres mauvais, il en est de vieux et cassés, et en est de mortels. Car Chrysippus estimait qu'en la dernière conflagration du monde, tous les dieux auraient à finir, sauf Jupiter. L'homme forge 1000 plaisantes sociétés entre Dieu et lui. Est-il pas son compatriote? Voyez l'excuse que nous donne sur la considération de ce sujet, Sévola, grand pontife, et Varron, grand théologien, en leur temps. Qu'il est besoin que le peuple ignore beaucoup de choses vraies et en croit beaucoup de fausses. Les yeux humains ne peuvent apercevoir les choses que par les formes de leur connaissance, et ne nous souvient pas quel saut prit le misérable Phaéton pour avoir voulu manier les rênes des chevaux de son père d'une main mortelle. Notre esprit retombe en pareille profondeur, se dissipe et se froisse de même par sa témérité. Si vous demandez à la philosophie de quelle matière est le soleil, que vous répondra-t-elle, sinon de fer et de pierre ou autre étoffe de son usage? S'enquiert-on à Zénon ce que c'est que nature? Un feu, dit-il, artiste, propre à engendrer, procédant régulièrement. Archimède, maître de cette science qui s'attribue la préséance sur toutes les autres en vérité et certitude. Oh, le soleil, dit-il, est un dieu de fer enflammé. Voilà pas une belle imagination produite de l'inévitable nécessité des démonstrations géométriques. Non pourtant si inévitable et utile que Socrate n'ait estimé qu'il suffisait d'en savoir jusque à pouvoir arpenter la terre qu'on donnait et recevait. et que Polyénus, qui en avait été fameux et illustre docteur, ne les ait prises à mépris comme pleines de fausseté et de vanité apparente, après qu'il eut goûté les doux fruits des jardins poltronesques d'Épicure. Socrate en Xénophon, sur ce propos d'Anaxagoras, estimé par l'Antiquité, entendu au-dessus de tous autres, est-ce choses célestes et divines, dit qu'il se troubla du cerveau, comme font tous hommes, qui perscrutent immodérément les connaissances qui ne sont de leur appartenance. Sur ce qu'il faisait le soleil, une pierre ardente, il ne s'avisait pas qu'une pierre ne lui pointe au feu et qui pisait qu'elle s'y consomme. En ce qu'il faisait un, du soleil et du feu, que le feu ne noircit pas ce qu'il regarde, que nous regardons fixement le feu, que le feu tue les plantes et les herbes. C'est à la vie de Socrate, et au mien aussi, le plus sagement juger du ciel que n'en juger point. Platon, ayant à parler des démons au Timée, cette entreprise, dit-il, qui surpasse notre portée, il en faut croire ces anciens qui se sont dit engendrés d'eux. C'est contre raison de refuser foi aux enfants des dieux, encore que leur dire ne soit établi par raison nécessaire, ni vraisemblable, puisqu'ils nous répondent de parler de choses domestiques et familières. Voyons si nous avons quelque peu plus de clarté en la connaissance des choses humaines et naturelles. N'est-ce pas une ridicule entreprise à celles auxquelles, par notre propre confession, notre science ne peut atteindre, leur aller forgeant un autre corps et prêtant une forme fausse de notre invention? Comme il se voit au mouvement des plantes, auxquelles, d'autant que notre esprit ne peut arriver ni imaginer sa naturelle conduite, nous leur prêtons d'une autre des ressorts matériels, lourds et corporels. Vous diriez que nous avons eu des cochers, des charpentiers et des peintres qui sont allés dresser là-haut des engins à divers mouvements et ranger les rouages et entrelacements des corps célestes bigarrés en couleurs autour du fuseau de la nécessité, selon Platon. Ce sont tous songes et fanatiques folies. Que ne plaît-il un jour à nature nous ouvrir son sein et nous faire voir au propre les moyens et la conduite de ses mouvements et y préparer nos yeux? Ô Dieu, quels abus, quels mécontres nous trouverions en notre pauvre science! Je suis trompé si elle tient une seule chose droitement dans son point, et m'en partirai d'ici plus ignorant en toute autre chose que mon ignorance. Ai-je pas vu en Platon ce divin mot que nature n'est rien qu'une poésie énigmatique? Comme, peut-être, qui dirait une peinture voilée et ténébreuse, entreluisant d'une infinie variété de faux jours à exercer nos conjectures. Et certes, la philosophie n'est qu'une poésie sophistiquée. D'où tirent ces auteurs anciens toute leur autorité que des poètes? Et les premiers furent poètes eux-mêmes et le traitèrent en leur part. Platon n'est qu'un poète décousu. Toutes les sciences surhumaines s'accoutrent au style poétique. Tout ainsi que les femmes emploient des dents d'ivoire où les leurs naturelles leur manquent, et au lieu de leur vrai teint en forgeant de quelque matière étrangère, comme elles font des cuisses de drap et de feutre et de l'embonpoint de coton, et au vu et au su d'un chacun s'embellissent d'une beauté fausse et empruntée. Ainsi fait la science. Et notre droit même a, dit-on, des fictions légitimes sur lesquels il fonde la vérité de sa justice. Elle nous donne en paiement et en présupposition les choses qu'elle-même nous apprend être inventées. Car ces épicycles excentriques, concentriques, de quoi l'astrologie cède à conduire le branle de ses étoiles, Elle nous les donne pour le mieux qu'elle ait su inventer en ce sujet. Comme aussi au reste, la philosophie nous présente non pas ce qui est ou ce qu'elle croit, mais ce qu'elle forge, ayant plus d'apparence et de gentillesse. Platon sur le discours de l'état de notre corps et de celui des bêtes. Que ce que nous avons dit soit vrai, nous en assurerions si nous avions sur cela confirmation d'un oracle. Seulement, nous vous assurons que c'est le plus vraisemblablement que nous ayons su dire. Ce n'est pas au ciel seulement qu'elle envoie ses cordages, ses engins et ses roues. Considérons un peu ce qu'elle dit de nous-mêmes et de notre contexture. Il n'y a pas plus de rétrogradation, trépidation, accession, reculement, ravissement aux astres et corps célestes qu'ils en ont forgé en ce pauvre petit corps humain. Vraiment, ils ont eu par là raison de l'appeler le petit monde, tant ils ont employé de pièces et de visages à le maçonner et bâtir. Pour accommoder les mouvements qu'ils voient en l'homme, les diverses fonctions et facultés que nous sentons en nous, en combien de parties ont-ils divisé notre âme? En combien de sièges logés? À combien d'ordres et d'étages ont-ils départi ce pauvre homme, outre les naturels et perceptibles? Et à combien d'offices et de vacations? Ils en font une chose publique, imaginaire. C'est un sujet qu'ils tiennent et qu'ils manient. On leur laisse toute puissance de le découdre, ranger, rassembler et étoffer chacun à sa fantaisie. Et s'ils ne le possèdent pas encore, non seulement en vérité, mais en songe même, ils ne le peuvent régler, qu'il ne s'y trouve quelque cadence ou quelque son qui échappe à leur architecture, tout énorme qu'elle est, et rapiécée de mille lopins faux et fantastiques. Et ce n'est pas raison de les excuser, car aux peintres, quand ils peignent le ciel, la terre, les mers, les monts, les îles écartées, nous leur condamnons qu'ils nous en rapportent seulement quelques marques légères, et comme de choses ignorées, nous contentons d'un tel calombrage et fin. Mais quand ils nous tirent après le naturel ou autre sujet qui nous est familier et connu, nous exigeons d'eux une parfaite et exacte représentation des linéaments et des couleurs, et les méprisons s'ils y faillent. Je sais bon gré à la garce milésienne qui, voyant le philosophe Thalès s'amuser continuellement à la contemplation de la voûte céleste et tenir toujours les yeux élevés contre mont, lui mit dans son passage quelque chose à le faire broncher pour l'avertir qu'il serait temps d'amuser son pansement aux choses qui étaient dans les nues quand il aurait pourvu à celles qui étaient à ses pieds. Elle lui conseillait certes bien de regarder plutôt à soi qu'au ciel, car, comme dit Démocrite par la bouche de Cicéron, « Quod est ante pedes nemo spectat, Caeli scutantur plagas. » Ce qui est devant ses pieds, personne ne le regarde, mais les gens scrutent les plages du ciel. Mais notre condition porte que la connaissance de ce que nous avons entre mains est aussi éloignée de nous et aussi bien au-dessus des nues que celle des astres. Comme dit Socrate en Platon, qu'à quiconque se mêle de la philosophie, on peut faire le reproche que fait cette femme à Thalès, qui ne voit rien de ce qui est devant lui. Car tout philosophe ignore ce que fait son voisin, oui, et ce qu'il fait lui-même, et ignore ce qu'ils sont tous deux, ou bêtes ou hommes. Ces gens ici, qui trouvent les raisons de ce monde trop faible, qui n'ignorent rien, qui gouvernent le monde, qui savent tout, n'ont-ils pas quelquefois sondé, parmi leurs livres, les difficultés qui se présentent à connaître leur être propre? Nous voyons bien que le doigt se meut et que le pied se meut, qu'aucune partie se branle d'elle-même sans notre congé, et que d'autres nous les agitons par notre ordonnance, que certaines appréhensions engendrent la rougeur, certaines autres la pâleur, telle imagination agit, on la rate seulement, telle autre au cerveau, l'une nous cause le rire, l'autre le pleurer, telle autre transite et estonne tous nos sens, et arrête le mouvement de nos membres, à tel objet l'estomac se soulève, à tel autre quelque partie plus basse. Mais comme une impression spirituelle fasse une telle fossée dans un sujet massif et solide, et la nature de la liaison et couture de ses admirables ressorts, jamais homme ne l'a su. Et si ne le met, ont-on pas pourtant en double, car les opinions des hommes sont reçues à la suite des créances anciennes, par autorité et à crédit, comme si c'était religion et loi. On reçoit, comme un jargon, ce qui en est communément tenu. On reçoit cette vérité, avec tout son bâtiment et attelage d'arguments et de preuves, comme un corps ferme et solide, qu'on n'ébranle plus, qu'on ne juge plus. Au contraire, chacun à qui mieux va piastrant et confortant cette créature reçue de tout ce que peut sa raison, qui est un outil souple, contournable et accommodable à toute figure. Ainsi se remplit le monde et se confie en falaise et en mensonge. Ce qui fait qu'on ne doute de guère de choses, c'est que les communes impressions, on ne les essaie jamais. On n'en sonde point le pied où gît la faute et la faiblesse. On ne débat que sur les branches. On ne demande pas si cela est vrai, mais s'il a été ainsi ou ainsi entendu. On ne demande pas si Gaïen n'avait rien dit qui vaille, mais s'il a dit ainsi ou autrement. Vraiment, c'était bien raison que cette bride des contraintes de la liberté de nos jugements et cette tyrannie de nos créances s'étendit jusqu'aux écoles et aux arts. Le dieu de la science scolastique, c'est Aristote. C'est religion de débattre de ses ordonnances comme de celles de Lycurgue à Sparte. Sa doctrine nous sert de loi magistrale qui est à l'aventure autant fausse qu'une autre. Je ne sais pas pourquoi je l'acceptasse autant volontiers ou les idées de Platon ou les atomes d'Épicure ou le plein et le vide de Leucippe et Démocrite, ou l'eau de Thalès, ou l'infinité de nature d'Anaximandre, ou l'air de Diogène, ou les nombreuses symétries de Pythagore, ou l'infini de Parménide, ou l'un de Musaeus, ou l'eau et le feu d'Apollodorus, ou les parties similaires d'Anaxagoras, ou la discute et la discorde et l'amitié d'Empédocle, ou le feu de Héraclitus, ou toute autre opinion de cette confusion infinie d'avis et de sentences que produit cette belle raison humaine par sa certitude et clairvoyance en tout ce de quoi elle se mêle, que je ferai l'opinion d'Aristote sur ce sujet des principes des choses naturelles. Lesquels principes il bâtit de trois pièces, matière, forme et privation. Et qu'est-il plus vain que de faire l'inanité même cause de la production des choses. La privation, c'est une négative. De quelle humeur en a-t-il pu faire la cause et origine des choses qui sont? Cela, toutefois, ne s'oserait ébranler que pour l'exercice de la logique. On n'y débat rien pour le mettre en doute, mais pour défendre l'auteur de l'école des objections étrangères. Son autorité, c'est le but au-delà duquel il n'est pas permis de s'enquérir. Il est bien aisé, sur des fondements avoués, de bâtir ce qu'on veut, car, selon la loi et ordonnance de ce commencement, le reste des pièces du bâtiment se conduit aisément sans se démentir. Par cette voie, nous trouvons notre raison bien fondée et discourons à boule vue. Car nos maîtres préoccupent et gagnent avant main, autant de lieux en notre créance qu'il leur en faut pour conclure après ce qu'ils veulent. À la mode des géométriens, par leurs demandes avouées, le consentement et approbation que nous leur prêtons, leur donnant de quoi nous traîner à gauche et à dextre et nous pirouetter à leur volonté. Quiconque est cru de ces présuppositions, il est notre maître et notre Dieu. Il prendra le plan de ses fondements si ample et si aisé que par ici il nous pourra monter, s'il veut, jusque aux nuées. En cette pratique et négociation de science, nous avons pris pour argent comptant le mot de Pythagoras, que chaque expert doit être cru en son art. Le dialecticien se rapporte au grammairien de la signification des mots. Le rhétoricien emprunte du dialecticien les lieux des arguments. Le poète du musicien les mesures. Le géométrien de l'arithmaticien les proportions. Les métaphysiciens prennent pour fondement les conjectures de la physique. Car chaque science a ses principes présupposés par où le jugement humain est bridé de toutes parts. Si vous venez à choquer cette barrière en laquelle gît la principale erreur, ils ont incontinent cette sentence en la bouche qu'il ne faut pas débattre contre ceux qui nient les principes. Or, y peut-il y avoir des principes aux hommes, si la divinité ne les leur a pas révélés? De tout le demeurant et le commencement et le milieu et la fin, ce n'est que songe et fumée. À ceux qui combattent par présupposition, il leur faut présupposer, au contraire, le même axiome de quoi on débat. Car toute présupposition humaine et toute énonciation a autant d'autorité que l'autre, si la raison en fait la différence. Ainsi, il les faut toutes mettre à la balance, et premièrement les générales et celles qui nous tyrannisent. La persuasion de la certitude est un certain témoignage de folie et d'incertitude extrême, et n'est point de plus folles gens, ni moins philosophes, que les philodoxes de Platon. Il faut savoir si le feu est chaud, si la neige est blanche, s'il n'y a rien de dur ou de mou, notre connaissance. Et quant à ces réponses, de quoi il se fait des contes anciens, comme à celui qui mettait en doute la chaleur, à qui on dit qu'il se jeta dans le feu, à celui qui niait la froideur de la glace, qu'il s'en mit dans le sein. Elles sont très indignes de la profession philosophique. S'ils nous eussent laissés en notre état naturel, recevant les apparences étrangères selon qu'elles se présentent à nous par nos sens, et nous eussent laissés aller après nos appétits simples et réglés par la condition de notre naissance, ils auraient raison de parler ainsi. Mais c'est d'eux que nous avons appris de nous rendre juges du monde. C'est d'eux que nous tenons cette fantaisie que la raison humaine est contre-horloge générale de tout ce qui est au-dehors et au-dedans de la voûte céleste, qui embrasse tout, qui peut tout, par le moyen de laquelle tout se sait et connaît. Cette réponse serait bonne parmi les cannibales qui jouissent l'heure d'une longue vie tranquille et paisible, sans les préceptes d'Aristote et sans la connaissance du nom de la physique. Cette réponse vaudrait mieux à l'aventure et aurait plus de fermeté que toutes celles qu'ils emprunteront de leur raison et de leur invention. De cette-ci seraient capables avec nous tous les animaux et tous ceux où le commandement est encore pur et simple de la loi naturelle. Mais eux, ils y ont renoncé. Il ne faut pas qu'ils me disent « Il est vrai, car vous le voyez, sentez ainsi. » Il faut qu'ils me disent « Si ce que je pense sentir, je le sens pourtant, en effet. » Et comment, et quoi ? Qu'ils me disent le nom, l'origine, les tenants et aboutissants de la chaleur, du froid, les qualités de celui qui agit et de celui qui souffre, ou qu'ils me quittent leur profession, qui est de ne recevoir ni approuver rien que par la voie de la raison. C'est leur touche à toutes sortes d'essais. Mais certes, c'est une touche pleine de fausseté, d'erreur, de faiblesse et d'effaillance. Par où la voulons-nous mieux éprouver que par elle-même? S'il ne la faut croire, parlant de soi, à peine sera-t-elle propre à juger les choses étrangères. Si elle connaît quelque chose, au moins, sera son être et son domicile. Elle est en l'âme, et partie ou est fait, dit-elle. Car la vraie raison est essentielle. De qui nous dérobons le nom à fausses enseignes, elle loge dans le sein de Dieu, c'est là son gîte et sa retraite, c'est de là où elle part, quand il plaît à Dieu nous en faire voir quelques rayons. Comme Pallas saillit de la tête de son père pour se communiquer au monde. Or, voyons ce que l'humaine raison nous a appris de soi et de l'âme, non de l'âme en général, de laquelle quasi toute la philosophie rend les corps célestes et les premiers corps participants, ni de celle que Thalès attribuait aux choses mêmes, qu'on tient inanimées, conviées par la considération de l'aimant, mais de celle qui nous appartient, que nous devons mieux connaître. Acrates édicait Arcus qu'il n'y en avait du tout point, mais que le corps s'ébranlait ainsi d'un mouvement naturel. À Platon, que c'était une substance se mouvant de soi-même. À Thalès, une nature sans repos. À Asclépiade, une exercitation des sens. À Hésiode et Anaximandère, une chose composée de terre et d'eau. À Parménide, de terre et de feu. À Empédocle, de sang. À Hippocrate, un esprit épandu par le corps. À Varron, un air reçu par la bouche, échauffé aux poumons, attrempé au cœur et épandu par tout le corps. À Zénon, la quintessence des quatre éléments. À Héraclite, Sporticus, la lumière. À Xénocrate et aux Égyptiens, un nombre mobile. Aux Chaldéens, une vertu sans forme déterminée. Et n'oublions pas Aristote, ce qui naturellement fait mouvoir le corps qu'il nomme entélechie. D'une autant froide invention que nulle autre, car il ne parle ni de l'essence, ni de l'origine, ni de la nature de l'âme, mais remarque seulement l'effet. Lactance, Sénèque et la meilleure part entre les dogmatistes ont confessé que c'était chose qu'ils n'entendaient pas. Et après tout ce dénombrement d'opinions, je connais par moi, dit saint Bernard, combien Dieu est incompréhensible, puisque les pièces de mon être propre, je ne les puis comprendre. Héraclitus, qui tenait tout être plein d'âme et de démons, maintenait pourtant qu'on ne pouvait aller tant avant vers la connaissance de l'âme qu'on n'y pût arriver si profond d'être son essence. Il n'y a pas moins de dissensions ni de débats à la loger. Hippocrate et Hiérophilus la mettent au ventricule du cerveau. Démocrite et Aristote par tout le corps. Les stoïciens, autour et dedans le cœur. Erasistratus, joignant la membrane de l'épicrâne. Empédocle, au sang, comme aussi Moïse, qui fut la cause pourquoi il défendit de manger le sang des bêtes auxquelles leur âme est jointe. Galen a pensé que chaque partie du corps est son âme. Strato, on l'a logé entre les deux sourcils. Je laisse volontiers à cet homme ses mots propres. Irais-je à l'éloquence altérer son parler? Joint qu'il y a peu d'aquais à dérober la matière de ses inventions. Elles sont et peu fréquentes, et peu roides, et peu ignorées. Mais la raison pourquoi Chrysippus l'argumente autour du cœur, comme les autres de sa secte, n'est pas pour être oubliée. C'est parce, dit-il, que quand nous voulons assurer quelque chose, nous mettons la main sur l'estomac. Et quand nous voulons prononcer grec, un mot grec qui signifie « moi », nous baissons vers l'estomac la mâchoire d'en bas. Ce lieu ne se doit passer sans remarquer la vanité d'un si grand personnage, car outre ce que ces considérations sont d'elles-mêmes infiniment légères, la dernière ne prouve qu'aux Grecs qu'ils aient l'âme en cet endroit-là. Il n'est jugement humain si tendu qui ne sommeille parfois. Que craignons-nous à dire ? Voilà les stoïciens pères de l'humaine prudence, qui trouvent que l'âme d'un homme accablé sous une ruine, traîné à âne longtemps à sortir, ne se pouvant démêler de la charge comme une souris prise à la trapelle. Aucun tienne que le monde fût fait pour donner corps par punition aux esprits déchus par leur faute de la pureté en quoi ils avaient été créés, la première création n'ayant été qu'incorporelle, et que, selon qu'ils se sont plus ou moins éloignés de leur spiritualité, on les incorpore plus et moins allègrement ou lourdement. De là vient la variété de tant de matières créées. Mais l'esprit, qui fut pour sa peine investi du corps du soleil, devait avoir une mesure d'altération bien rare et particulière. Les extrémités de notre perquisition tombent tout en éblouissement. Comme dit Plutarque de la tête des histoires, qu'à la mode des chartes, l'orée des terres connues est saisie de marais, forêts profondes, déserts et lieux inhabitables. Voilà pourquoi les plus grossières et puériles rêvasseries se trouvent plus en ceux qui traitent les choses plus hautes et plus avant, s'abîmant leur curiosité et présomption. La fin et le commencement de science se tiennent en pareille bêtise. Voyez prendre à mon l'essor à Platon en ses nuages poétiques. Voyez chez lui le jargon des dieux. Mais à quoi songeait-il quand il définit l'homme à un animal à deux pieds sans plumes, fournissant à ceux qui avaient envie de se moquer de lui une plaisante occasion? Car, ayant plumé un chapon vif, ils allaient le nommant l'homme de Platon.